La bonne nouvelle que je vous ai annoncée, celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez, et par laquelle aussi vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez dans les termes où je vous l'ai annoncée. Autrement, c'est pour rien que vous seriez venus à la foi. Je vous ai transmis, avant tout, ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il s'est réveillé le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux sont demeurés en vie, quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu, à moi aussi, comme à un avorton. Or, si l'on proclame que le Christ s'est réveillé d'entre les morts, comment quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, alors notre proclamation est inutile, et votre foi aussi est inutile. Nous apparaissons même comme de faux témoins de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a réveillé le Christ, alors qu'il ne l'a pas réveillé, s'il est vrai que les morts ne se réveillent pas. En effet, si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile, vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. En effet, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront rendus vivants dans le Christ, mais chacun en son rang, le Christ comme prémisse, puis à son avènement, ceux qui appartiennent au Christ. Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à rien tout principat, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à rien, c'est la mort.
À Pâques, chaque année, nous fêtons l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Plus important que la chute de l'Empire romain ou du mur de Berlin, un peu plus tard. Infiniment plus essentiel que les conquêtes de Charlemagne ou de Napoléon. Plus majeur que le 11 septembre ou même que la Coupe du Monde 1998. Nous fêtons la résurrection de Jésus. Et ce que la Bible nous dit de cet événement, c'est qu'il change tout. Et pourtant, le paradoxe, c'est que du point de vue de ce qui est visible, le monde n'a pas tellement changé. Il est toujours tiraillé, souffrant, dysfonctionnel, idolâtre, décevant. Mais dans ce monde qui n'a pas encore changé, Dieu est intervenu. Et il a posé l'acte fondateur d'un monde nouveau. Et dans cette Église, nous prenons au sérieux l'affirmation biblique selon laquelle chaque homme et chaque femme, chaque enfant, est appelé à se positionner vis-à-vis de cet événement qu'est la résurrection de Jésus. Et les enjeux, en fait, ne pourraient pas être plus grands. Soit cet événement est véridique, auquel cas, eh bien, effectivement, ça change tout, et ça doit être l'événement qui guide nos vies entières. Soit cet événement est fictif, auquel cas, on est en train de perdre notre temps ce soir. Si tel est le cas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais je voudrais vous inviter à réfléchir à la résurrection de Jésus en deux temps, en suivant le texte lu par Sophie il y a quelques instants. Et je voudrais retenir deux points. Donc, premièrement, un événement historique, tel que ce texte le décrit. Et deuxièmement, un enjeu suprême. Un événement historique, tout d'abord, plus particulièrement les versets 3 à 8 de notre texte. Alors, il n'y a pas de preuve de l'historicité de la résurrection de Jésus, au sens où on entend souvent le mot « preuve » aujourd'hui. Il n'y a aucune caméra de surveillance qui a filmé l'événement, il n'y a pas de vidéo sur YouTube, il n'y a pas d'interview des témoins sur France 24. Face à ce constat, il y a au moins trois réactions possibles. Alors pour certains, la résurrection, tout simplement, n'a jamais eu lieu. Soyons sérieux, d'après certains. C'est évidemment un mythe qui a été inventé par les premiers chrétiens. Et voilà, il n'y a pas plus à y voir que cela. Pour d'autres, c'est quelque chose qui relève strictement de la foi et qui donc ne peut pas être placé dans l'histoire. Et on entend même parfois des chrétiens qui tiennent un discours qui va un peu dans ce sens. Ah, ça relève de la foi, on peut pas parler de ça comme d'un événement historique. Alors, en surface, ça paraît très sophistiqué hein, de parler comme ça, mais en fait, ça ne veut strictement rien dire. Parce que la question incontournable, c'est de savoir si c'est arrivé ou non, hein, comme pour n'importe quel événement historique. Le 11 septembre, est-ce que c'est arrivé ou est-ce que c'est pas arrivé ? On ne peut pas dire que ça relève de la conviction des uns et des autres. Soit il y a eu un événement, soit il n'a pas eu lieu. La Bible, en tous les cas, à propos de la résurrection, qui est, comme je l'ai dit, bien plus important encore, ne nous propose pas de troisième voie. Est-ce que Jésus de Nazareth, cet homme qui a été crucifié sous Ponce Pilate dans les années 30 du 1er siècle, est-ce que oui ou non, il est apparu vivant, en chair et en os, à ses disciples, moins de 48 heures après ? Puisque c'est ce que nous dit le Nouveau Testament. Soit c'est un événement historique, soit c'est une fiction ou bien une image, mais il faut choisir. Or, le Nouveau Testament présente bel et bien la résurrection comme étant survenue dans l'histoire. Et donc la troisième approche possible, c'est celle que nous adoptons dans cette Église, c'est bien la confession chrétienne historique, qui est de considérer que oui, Jésus est bel et bien ressuscité, et ce n'est pas une façon de parler, il est ressuscité corporellement dans l'histoire. C'est notre conviction dans cette Église, et nous n'avons pas besoin d'une vidéo sur YouTube. C'est vrai, on ne peut pas strictement parler de preuve, encore une fois, au sens où on utilise ce terme dans la société moderne, mais il y a par contre des arguments massifs qui rendent la réalité historique de la résurrection non seulement plausible, mais si vous voulez vraiment mon sentiment, incontournable. Je ne vais pas cataloguer tous les arguments ce soir, ça pourrait prendre beaucoup trop de temps. Notamment si on regardait les quatre évangiles, les récits de la résurrection dans les quatre évangiles, il y aurait beaucoup de choses à relever. Mais ce soir, nous allons nous en tenir à ce texte de l'apôtre Paul qui nous a été lu. D'abord, rappelons que l'apôtre Paul, ou je vous informe parce que tous ne le savent pas forcément, l'apôtre Paul a écrit sa première lettre aux Corinthiens dans les années 50 du 1er siècle. Et on a des éléments très concordants qui nous renseignent à ce sujet. Donc Paul écrit à peine 20 ans après les événements dont il parle. Donc il n'est pas en train de parler de la chose trois siècles plus tard, c'est 20 ans environ après les événements. Et que nous dit Paul ? Verset 3. « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il s'est réveillé le troisième jour selon les Écritures. » Alors jusque-là, Paul commence donc par faire appel aux Écritures. Et c'est intéressant de voir qu'il place cet argument en premier, en quelque sorte. Les Écritures annonçaient la mort et la résurrection du Messie. Et Jésus a accompli ces Écritures. Alors, Paul fait implicitement référence à quelques textes de l'Ancien Testament, on en a lu un d'ailleurs tout à l'heure, Ésaïe 53 notamment, on pourrait parler du psaume 16 également, un texte du prophète Osée, mais plus largement, toute la logique de l'Ancien Testament, dans un sens, c'est que Dieu triomphe de la mort et du mal par la vie. Et il est très vraisemblable que Paul, plus que tel ou tel texte, même s'il avait ces textes à l'esprit, a vu dans le mouvement général de l'Ancien Testament, a vu l'accomplissement de cela dans la résurrection de Jésus-Christ. Donc l'apôtre prend soin de noter que la résurrection de Jésus s'inscrit dans le projet divin qui avait déjà été annoncé à l'avance par les prophètes d'Israël. Mais ensuite, il va poursuivre avec une argumentation différente, une argumentation par les témoins oculaires. Verset 5, « Il est apparu à Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre. » C'était son autre nom, son surnom en quelque sorte. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Rappelons que lorsque Paul écrit, Pierre est encore en vie. Et la plupart des 12 autres apôtres le sont aussi. Donc si la résurrection de Jésus est une pure fiction, Paul est quand même un peu gonflé de citer d'emblée 12 autres témoins que lui-même, qui étaient parfaitement connus de nom par les premiers chrétiens, et qui, pour certains d'entre eux et la majorité, restaient accessibles. Mais le summum arrive sans doute au verset 6. Ensuite, il, Jésus, est apparu à plus de 500 frères à la fois. Frères, hein, frères et sœurs certainement, c'est une façon de parler à l'époque. 500 disciples de Jésus à la fois. Et là, Paul ajoute, la plupart d'entre eux sont demeurés en vie. Quelques-uns se sont endormis dans la mort. Pourquoi est-ce que Paul apporte cette précision? Il nous dit qu'il y a eu plus de 500 témoins de la résurrection de Jésus. Et il précise, la plupart d'entre eux sont encore en vie au moment où il écrit. On a beau chercher d'autres explications, le seul motif possible de cette précision que l'apôtre Paul apporte, c'est que Paul authentifie ce qu'il dit en renvoyant à ses témoins qui sont encore vivants et qui sont donc consultables. Et il y en a plus de 500, nous dit-il, moins quelques-uns qui sont morts. Alors là encore, imaginons que Paul veut transmettre un mythe ou une vague idée religieuse qui lui semble un peu attrayante, mais qui n'a aucune base concrète pour avancer ce qu'il dit. Pourquoi mentionner tous ces témoins, dont certains avec leur nom, et préciser qu'ils sont encore en vie, sous-entendu qu'on peut encore les consulter? Rappelons-le, on est 20 ans environ, 20-25 ans après les faits. Si Paul n'avait pas la conviction absolument ferme et fondée sur des témoignages concordants et aussi sur sa propre expérience que Jésus était bien ressuscité, Paul aurait simplement pu dire « Croyez-moi, Jésus est ressuscité !» Et oui, malheureusement, les 2-3 personnes qui l'ont vu sont mortes, mais je vous assure, c'est vrai, croyez-le. Mais ce n'est pas du tout ça que Paul dit. Il renvoie à 500 témoins. La Bible dit que dans la tradition biblique, 2 témoins authentifient un témoignage. Là, il y en a 500. Alors, c'est vrai que ces 500 restent anonymes, parce que vous imaginez s'il en avait fait la liste. Mais l'ampleur de ce chiffre est incompatible avec un désir que l'apôtre Paul aurait eu de tromper ou d'inventer. On ne peut pas prétendre faussement que 500 personnes encore vivantes ont vu un événement, si on veut que les gens croient à cet événement. Si Paul fait appel à ces témoins qui sont encore accessibles, c'est parce qu'il n'a aucun doute sur la véracité de leur témoignage. Et je rappelle qu'il en cite plusieurs par leur nom et que ces hommes étaient encore vivants. Pierre, Jacques et les 12 premiers apôtres étaient connus nommément et pour la plupart encore en vie. Peut-être pas pour le cas de Jacques, pardon, mais en tout cas Pierre et la plupart de ses apôtres. Et au verset 8, Paul poursuit avec son propre témoignage. « Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un avorton, ou autre traduction, un enfant né après terme. » Cette expression a fait couler beaucoup d'encre. Sans doute, Paul renvoie-t-il au fait que Jésus est apparu à lui en dernier lieu, parce qu'en fait, il n'était pas encore disciple de Jésus quand Jésus est ressuscité. Au contraire, il était adversaire de la foi chrétienne, comme on l'a vu il y a quelques semaines. Et donc, il a fallu que Jésus se révèle à lui après terme, en quelque sorte. Donc récapitulons, l'apôtre Paul affirme avoir vu Jésus ressuscité. On en a parlé il y a quelques semaines, c'était l'épisode du chemin de Damas. Mais il dit aussi que Pierre, Jacques et au moins 10 autres personnes, connues nommément, ont vu Jésus ressuscité. Et il dit qu'il y a même eu 500 témoins de cet événement, dont la plupart sont encore en vie et donc peuvent être consultés. Je ne vois pas d'autre explication raisonnable à ces données que de penser que l'apôtre Paul était fermement convaincu de ce qu'il affirmait et que cette conviction ferme, reposant sur de multiples témoignages oculaires, était partagée par des dizaines et même des centaines de personnes. Le dernier argument qu'on peut invoquer à ce sujet, dans le cadre de ce texte, c'est que Paul, Pierre, Jacques et les autres apôtres, ils ne sont pas en train de raconter une histoire tranquillement, au coin du feu, avec des chamallows. Ils parlent d'un événement qui a changé leur vie et pour lequel ils ont été prêts à tous les sacrifices. Raconter une histoire fictive, tout le monde peut le faire, hein, c'est pas très compliqué. Par contre, que des dizaines et même des centaines de personnes racontent la même histoire fictive, alors vous me direz, c'est possible aussi. Hein, il peut y avoir une fausse rumeur qui se répand très rapidement, c'est vrai. même si c'était moins probable à l'époque, sans la communication de masse qui existe aujourd'hui. Mais par contre, des dizaines et des centaines de personnes qui, non seulement racontent la même histoire fictive, mais qui sont tous prêts à changer de vie pour elles, à risquer leur vie pour elles, à perdre leur statut social, leur sécurité, à souffrir et au final, pour beaucoup d'entre eux, à mourir, c'est quand même très très difficile à croire. Personne, en fait, n'a jamais pu apporter une explication plausible du changement de vie des disciples de Jésus après la résurrection. La seule explication plausible, c'est la réalité de la résurrection. Certains diront, oui, mais croire qu'un homme est revenu de la mort, c'est encore plus implausible que de penser qu'ils ont tous eu une sorte d'hallucination collective ou qu'ils ont tous inventé une histoire et qu'ils ont fini par y croire. Et c'était un argument invoqué, par exemple, par le philosophe David Hume, qui a dit « C'est vrai que tout ça, c'est improbable, mais qu'un homme revienne de la mort, c'est encore plus improbable. » Mais la réponse que l'on peut apporter à cela, que l'on doit apporter à cela, c'est que tout dépend de la vision du monde et de l'univers qu'on a. Si on croit que l'univers est l'œuvre d'un créateur qui n'est pas limité comme nous le sommes et qui est le créateur de la vie, alors il n'est pas si difficile d'admettre que ce créateur, le maître de la vie, puisse ramener un homme à la vie. En l'occurrence, le Fils de Dieu incarné. Si par contre on part d'une pétition de principe selon laquelle, de toute façon, non, il n'y a pas de créateur, évidemment, dans ce cas-là, on ne pourra pas admettre la réalité d'un miracle, par définition. Quels que soient les arguments avancés, on va dire non, je n'y crois pas parce que le surnaturel n'existe pas. Et en fait, ça revient à dire la résurrection est impossible parce que la résurrection est impossible. Donc c'est un argument circulaire. La Bible nous invite à voir dans la résurrection une preuve stupéfiante de la réalité, de la puissance de Dieu, le Créateur. Et j'en arrive au second point qui sera plus bref, un enjeu suprême. Paul s'adresse à des chrétiens, donc une vingtaine d'années après la résurrection, et qui commençaient déjà, pour pas mal d'entre eux, à dériver vers de faux enseignements. Ça allait vite. Alors, ils croyaient encore que Jésus est ressuscité. Oui, après tout, les témoignages étaient nombreux, les témoignages étaient concordants. Ils avaient rencontré en personne des gens qui avaient vu Jésus ressuscité. Donc ça, ils y croyaient encore. Mais par contre, ils refusaient pour certains de croire l'enseignement biblique selon lequel tous les hommes et les femmes ayant cru en Jésus-Christ connaîtront eux aussi une résurrection à la fin de l'histoire. Ça, c'était trop incompatible avec leur culture grecque qui opposait spirituel et corporel. Alors, à la limite, que le Fils de Dieu, Jésus, puisse ressusciter, bon, on veut bien l'admettre, mais vous et moi, non, mais vous rigolez. Et ces gens disaient, mais notre espérance, c'est une éternité désincarnée, vécue de manière uniquement spirituelle. Or, la Bible enseigne avec insistance que Dieu, un jour, va créer une nouvelle création, va accorder à son peuple une vie éternelle, vécue corporellement sur cette nouvelle terre. Le prophète Ésaïe, qu'on a déjà cité, parle à plusieurs reprises de cette nouvelle création. Ésaïe 11, par exemple, versets 6 à 9, c'est très bref, je vous le lis simplement. « Le loup séjournera avec le mouton, la panthère se couchera avec le chevreau. » Un peu plus loin, « Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sacrée, car la connaissance du Seigneur remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. » Ou dans le même livre du prophète Ésaïe, chapitre 65, verset 17, « Je crée un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne viendra plus au cœur. » Et le Nouveau Testament est dans la même ligne, 2 Pierre 3,13. « Or nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. » Apocalypse 21, verset 1, il s'agit d'une vision prophétique. « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Vous me demanderez peut-être si je m'éloigne un peu du sujet de la résurrection de Jésus qu'on célèbre aujourd'hui. Mais pas du tout, d'après l'apôtre Paul. Parce qu'il fait le lien entre la résurrection de Jésus et cette nouvelle création à venir, qui inclut la résurrection des hommes et des femmes qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, qui ont reçu par la grâce son œuvre en leur faveur. Je relis les versets 14 à 20 de notre texte. Si les morts ne se réveillent pas, ne ressuscitent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui se sont endormis dans le Christ, autrement dit, ceux qui sont morts alors qu'ils croyaient en Christ, sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Et verset 22, « En effet, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront rendus vivants dans le Christ. Mais chacun en son rang, le Christ comme prémisse, puis à son avènement, à son retour, ceux qui appartiennent au Christ. » En établissant ce lien entre la résurrection de Jésus et la nôtre, Paul évoque trois enjeux, il me semble. D'abord, il évoque l'enjeu du sens de la vie. Verset 17, « Si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. » Et il en rajoute une couche au verset 19, « Mais si c'est pour cette vie seulement que nous plaçons notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. » Et notons en passant combien ces paroles cadrent mal avec l'idée d'une invention par Paul ou d'un simple mythe qu'il transmet sur la base de rumeurs. Paul est parfaitement au clair sur le fait que si la résurrection de Jésus est une fiction, les chrétiens sont en train de gâcher leur vie à placer leur espérance dans cet événement. Et lui, le premier, qui a tout laissé pour suivre Jésus-Christ. Donc il faut bien mesurer cet enjeu pour nous aussi, parce que Paul, ici, l'apôtre, ne nous laisse pas dans un flou artistique à ce sujet. Soit Jésus est ressuscité, et comme l'enseigne la Bible, cette résurrection, c'est l'acte fondateur, les prémices d'un monde nouveau qui nous est promis. Et dans ce cas-là, toute notre vie est redéfinie par cette promesse. Soit, tout ça c'est du pipeau, et dans ce cas, on a mieux à faire. Le deuxième enjeu, c'est celui du pardon de Dieu. Verset 17, « Si le Christ ne s'est pas réveillé, vous êtes encore dans vos péchés. Si Jésus n'est pas ressuscité, sa crucifixion est futile, le sacrifice expiatoire a échoué. Il est mort en martyr, certes, mais dans ce cas, cela n'a servi à rien. La mort a eu le dernier mot. » Si Jésus n'est pas ressuscité. Et donc cette réconciliation que Dieu avait promise avec les hommes n'est qu'une notion théorique et abstraite qui n'a pas le moindre fondement concret. Mais si en revanche Jésus est ressuscité, c'est que son sacrifice pour nos fautes a bien été agréé par Dieu et que la réconciliation entre Dieu et nous a bien été entérinée, elle a été actée éternellement. Troisième enjeu, celui de la vie nouvelle. Verset 18, si le Christ ne s'est pas réveillé, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Et oui, si Jésus n'est pas ressuscité, alors il n'y a aucune raison de penser que Dieu puisse ressusciter les morts. Donc ceux qui ont vécu leur vie pour Jésus et qui se sont éteints ont simplement disparu dans l'oubli, sont passés de l'existence à la non-existence. Ils ne sont plus rien. L'avenir n'est que néant pour chacun d'entre nous. Soyons cohérents, si c'est ce que nous croyons. Si ce raisonnement est valide, il n'y a rien à espérer pour l'avenir. Et ce raisonnement est valide si Jésus n'est pas ressuscité. Paul fait donc de la résurrection de Jésus un enjeu existentiel pour nous tous. Si Jésus n'est pas ressuscité, c'est une très mauvaise nouvelle. Et notre seule espérance, si on veut utiliser ce mot, c'est simplement de minimiser nos problèmes et de maximiser nos succès pendant cette vie, jusqu'au jour où, de toute façon, tout disparaîtra pour nous. Si Jésus n'est pas ressuscité, je vous encourage à quitter la salle maintenant, parce que vous perdez votre temps. Mais si Jésus est bien ressuscité, ça change absolument tout. C'est l'acte fondateur d'un monde nouveau dans lequel nous aurons pour vocation de vivre éternellement réconciliés à notre Créateur, le Dieu de la vie qui n'est pas arrêté par la mort. Si Jésus est ressuscité, alors cet événement dont on parle si peu dans le monde, c'est quand même frappant hein, quand on entend ce qui a été dit à la radio ce week-end à propos de Pâques, hein, c'est l'agneau qu'on va manger, c'est à la limite le discours du pape, hein, c'est à peu près tout, alors que c'est l'événement le plus important de l'histoire, infiniment plus important que la crise des subprimes, que l'élection présidentielle, ou même que l'avenir politique, économique et écologique de ce monde. ne s'agit pas de minimiser ces choses-là. Ces choses ont bien sûr leur importance. Mais il s'agit de reconnaître que la résurrection de Jésus, c'est le jour J de l'histoire, d'après la Bible. Dieu patiente encore avant d'établir le monde nouveau. Pourquoi est-ce qu'il patiente ? Parce qu'il attend encore plusieurs d'entre nous. Il attend encore que des hommes et des femmes qui pour l'instant ne le connaissent pas viennent à lui par la foi, simplement par la foi, comme la chanson l'a dit tout à l'heure. Me voici. Dieu a voulu que ce soit par la foi en Jésus-Christ, son Fils, que cette réconciliation avec lui ait lieu. Et je terminerai par cet appel de l'apôtre Paul, cette fois dans sa seconde lettre aux Corinthiens, et le texte voilà, est affiché, chapitre 5, verset 20 jusqu'à 6, verset 2. Paul, qui parle au nom des apôtres de Jésus-Christ, dit « Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ, c'est Dieu qui encourage par notre entremise, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Puisque nous sommes ses collaborateurs, nous vous encourageons à ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Eh bien, c'est maintenant le temps vraiment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Amen. Je vais prier et nous passerons ensuite aux annonces. Notre Dieu, nous te demandons de nous aider à répondre à cet appel, si ce n'est pas encore fait. Mais nous savons aussi que même pour nous qui déjà avons par la foi dit que nous voulions te suivre, qui avons reçu ce que tu as fait pour nous, nous devons sans cesse fixer à nouveau les yeux vers toi. Il y a tant de choses qui sont pour nous des distractions. Or, nous voulons, tout en profitant pleinement de la bonne création que tu nous as donnée, nous voulons nous rendre compte du fait que si nous ne te connaissons pas et si nous ne marchons pas à ta suite, alors tout cela n'est finalement que futilité. Seigneur, comme nous avons du mal à entendre ces paroles dans un monde où on nous dit sans cesse qu'il y a plein d'autres choses qui sont d'une suprême importance, des choses pourtant constamment décevantes, aléatoires, périssables. Mais toi, le Dieu de l'éternité, tu es intervenu dans notre histoire déchirée, dans notre histoire pleine de souffrances, et tu as conquis la mort par l'immortalité. En Jésus-Christ, tu as déjà remporté la victoire décisive. Nous attendons maintenant la victoire finale. En attendant, garde-nous fidèles. Au nom de Jésus. Amen. Un bref moment.